Chapitre 4. Un coup d'œil sur le passé. octobre 10. Je trouvais facilement la maison où demeurait Miss Judson. C'était une de ces maisons de forme carrée, entourées de plates-bandes de fleurs et fermées par une palissade d'un vert éclatant, qui ne font nulle part plus d'effet que dans les faubourgs d'une ville de province. J'en avais entendu assez depuis mon court séjour à Ullerton pour savoir que vivre dans Lancaster Road équivalait à un brevet de respectabilité au-dessus de toute atteinte. Il n'y a que les gens très bien posés pour dédaigner de s'enfermer chez eux comme dans une prison. Miss Ezekiah avait une existence extrêmement pure. Elle avait de plus des rentes. Cela suffisait pour donner au faubourg qu'elle habitait un prestige irréprochable. Je fus reçu par une femme âgée, empesée comme un faux-col, mais avec un visage assez agréable. Elle me fit entrer dans un parloir très propre, mais très humide, comme les pièces qu'on n'habite pas. Elle m'y laissa pendant qu'elle allait porter à sa maîtresse ma lettre d'introduction. J'eus le temps de me faire quelque idée du caractère de Miss Judson en examinant les objets parmi lesquels elle vivait. Sur la table, des livres de poésie se mêlaient à des livres de religion. De chaque côté, des serins tapageurs chantaient dans une grande cage de cuivre, et un épagneul dodu ronflé pelotonnait sur un coussin. Ce que voyant, je pensais, le wesleyanisme de la dame n'est pas farouche. Sa piété se tempère par des émotions d'un ordre plus naturel, telles que le bonheur d'entendre jaser les serins et dormir les chiens obèses. Je ne me trompais pas. Miss Judson apparut, et la servante la suivait, portant un plateau sur lequel il y avait du vin et des gâteaux. C'était la première fois que dans mes visites, on m'offrait des rafraîchissements. J'en tirai la conclusion que Miss Judson devait être la personne la plus facile de celles que j'avais jusqu'alors rencontrées. Cela me donna bon espoir, je m'imaginais qu'il serait très malin de jouer la candeur. C'est pourquoi je ne crus pas devoir lui cacher que l'affaire qui m'amenait avait rapport à l'héritage laissé par John Haygarth, qui attendait un réclamant. « La personne pour laquelle vous agissez n'est pas Mr. Theodore Judson ?» demanda-t-elle avec quelque raideur. Je l'assurai que je n'avais jamais vu Mr. Théodore et que je n'étais en aucune façon intéressé à son succès. En ce cas, je serai heureuse de vous aider. J'ose croire que je suis une bonne chrétienne et si Theodore Judson Jr. venait ici pour me demander pardon, je le lui accorderai comme une bonne chrétienne doit le faire. Mais je ne puis ni ne veux seconder ses cupides desseins. Je ne puis me prêter à une altération quelconque de la vérité. Judson Senior n'est pas l'héritier régulier du défunt John Haygarth, bien que je doive reconnaître que ses droits primeraient ceux de mon frère. Il y a une autre personne avant Theodore Judson, et les Theodore Judson le savent bien. Mais fussent-ils fondés dans leurs réclamations, je les considérerais encore comme indignes de jouir de cette fortune. Si ce chien pouvait parler, il rendrait témoignage du mauvais traitement qu'il a reçu de Theodore Judson Jr. à la porte de son jardin, ce qui suffirait auprès de toute âme sensible pour montrer ce que vaut le caractère de l'homme. Un jeune homme capable de satisfaire de mauvais sentiments envers une vieille parente aux dépens d'un inoffensif animal ne sera jamais un homme qui mérite la richesse. J'exprimai mon adhésion à cette façon de voir, et je fus bien aise de m'apercevoir qu'avec Miss Judson, comme avec son frère, l'arrogance de Théodore me serait d'un grand secours. Cette dame était, plus encore que son frère, disposée à bavarder. Résolue de tirer de la circonstance tout l'avantage possible, je l'écoutai silencieusement. Je hasardai seulement une question de temps à autre. Cela me sembla long, je dois l'avouer. En récompense de ma force d'âme, j'obtins de Miss Judson la promesse de m'envoyer toutes les lettres et papiers qu'elle pourrait trouver sur l'histoire personnelle de Matthew Haygarth. Je sais que j'ai un gros paquet de lettres écrites par Matthew lui-même parmi les papiers de ma grand-mère, dit Miss Judson. J'étais la préférée de ma grand-mère et j'avais l'habitude de passer avec elle une partie de mes journées. Quand elle mourut, je portais encore une robe courte, mais dans mon temps, les jeunes filles portaient des robes courtes, beaucoup plus tard qu'à présent, j'avais 14 ans. Je l'ai bien souvent entendu parler de son frère Matthew, qui est mort quelques années avant ma naissance. Elle l'aimait beaucoup et il avait de l'affection pour elle. Elle m'a souvent aussi raconté combien il était beau dans sa jeunesse et quelle belle tournure il avait dans son costume de cheval chocolat brodé d'or, un jour qu'il était venu à Ullerton pour la voir en secret, n'étant pas en bon terme avec son père. Je demandai à Miss Judson si elle avait jamais lu les lettres de Matthew Haygarth. « Non, dit-elle, je les regarde quelquefois lorsque je mets de l'ordre dans le tiroir où je les conserve. » Il m'est parfois arrivé d'en lire quelques mots, mais rien de plus. Je les garde par respect pour le mort, mais je crois que cela me chagrinerait de les lire. Les pensées et les sentiments exprimés dans de vieilles lettres semblent si récents qu'ils nous poussent à faire un retour sur nous-mêmes et à nous affliger en voyant que ces lettres fanées sont tout ce qui reste de celui qui les a écrites. Il est bon de se rappeler que nous ne sommes que des voyageurs et des passagers sur cette terre, mais il n'en est pas moins douloureux de penser quelles traces légères nous y laisserons. » Les serins parurent comprendre Miss Judson. Un gazouillement d'assentiment retentit, et je pris congé avec un petit sentiment de compassion. Oui, moi, vagabond, moi, Robert Macaire jeune, j'avais pitié des serins qui étaient en cage et de la vieille dame solitaire qui commençait à sentir la mort qui venait et qui se rendait compte de la médiocrité de son existence. 11 octobre. Je porte aujourd'hui la peine de ma témérité à affronter l'atmosphère humide du parloir de Miss Judson. Je suis terriblement grippé. J'ai donné ordre qu'on allume un feu dans ma chambre. Cette douceur que je m'accorde n'est guère en rapport avec la rémunération que je reçois de Sheldon. Cela n'empêche pas que je sois assis devant mon feu, méditant sur la vie de Matthew Haygarth. Sur la table à côté de moi, plus de 100 lettres sont éparpillées, toutes de l'écriture hardie de Matthew. Mais même à présent, malgré tout ce que j'ai pu lire, l'histoire de cet homme est loin d'être claire pour moi. Ces lettres sont pleines d'allusions et d'indications, mais il y en a bien peu de compréhensibles. Ce sont des énigmes dans lesquelles la plupart des noms sont déguisés, il n'y a que des initiales. Il y a dans ces lettres beaucoup de choses qui ont rapport à l'époque de la vie secrète de Matthew. Elles sont adressées à la seule personne de la famille dans laquelle il eut pleine confiance. Ce fait transpire plus d'une fois, comme on le verra dans les extraits que je vais en faire, si ma grippe, qui me rend idiot quand elle ne me fait pas éternuer, me permet de travailler à quelque chose de raisonnable. J'ai divisé et classé ces lettres d'abord d'une façon et ensuite d'une autre, jusqu'à ne plus m'y reconnaître. Le mieux à faire est d'abandonner toute idée de classification, de les relire tranquillement en suivant autant que possible leur chronologie et en prenant note de ce qui me paraîtra en valoir la peine. L'esprit pénétrant de Georges fera le reste. Je m'abstiens néanmoins de conserver l'orthographe de Matthew, qui est bien la plus fantaisiste que j'ai jamais rencontrée. 14 décembre 1742. En vérité, ma chère Ruth, j'ai la plus grande affection pour vous, et je vous dirai ce que je ne voudrais dire à personne. J'ai revu cette jeune fille, que j'avais eu la bonne fortune de protéger contre les insultes des mauvais sujets au mois de septembre dernier. C'est bien la plus jolie créature qui se puisse voir, élégante, gracieuse de ton, de parole, comme une patricienne. La personne la mieux élevée de Ullerton ne l'est pas mieux qu'elle. Je l'ai rencontrée dans les environs de la prison du shérif, où son père est renfermé en ce moment, et j'ai eu avec elle une très agréable conversation. Elle m'a reconnu de suite et a paru bien aise de me rencontrer. Ses jolis yeux bleus se sont remplis de larmes lorsqu'elle m'a remercié d'avoir bien voulu être son défenseur à la foire. Ainsi, vous le voyez, Ruth, votre frère est mieux apprécié à Londres qu'ailleurs. Si vous aviez vu la pauvre créature et l'aviez entendu raconter sa touchante histoire, je suis sûr que votre excellent cœur se serait ému. Ses infortunes sont les plus imméritées du monde. Son père est malade en prison. Elle a perdu sa mère il y a 3 ans, et la pauvre orpheline est seule pour soutenir son père malade et sa petite sœur. Songez à cela, Ruth, dans votre riche demeure. Je vous jure que Molly est plus jolie qu'aucune des belles dames qui étaient à l'ouverture de la grande salle de danse de Ranelagh au printemps dernier, où j'ai rencontré Miss Cunnings et Lady Harvey, qui passent aussi pour une merveille. Cet extrait de lettre démontre de la manière la plus éclatante que mon ami Matthew s'est considérablement épris de la belle jeune femme dont il s'était constitué le défenseur dans quelques rixes. Cela s'accorde avec les quelques renseignements que j'ai eus de mon vieux pensionnaire de l'hospice de Ullerton, qui se rappelle avoir entendu son grand-père parler d'une intervention de Matthew dans quelques batailles à la grande fête de Smithfield. Dans mon extrait suivant, il est encore question de Molly. Il semblerait que Matthew, dans ses confidences à sa sœur, eût été jusqu'à lui avouer sa tendresse pour la fille du pauvre bateleur des Tréteaux de Londres. Mais je ne trouve rien de semblable dans les lettres que j'ai dans les mains. Une pareille lettre a pu être considérée comme route comme trop dangereuse pour être conservée. La sœur de Matthew n'était pas encore mariée à cette époque et vivait sous la sévère surveillance paternelle. La lettre suivante de Matthew me paraît avoir été écrite en réponse à quelques remontrances de route. 12 avril 1743. Certainement, ma chère sœur, vous ne pouvez me croire assez vile et immorale pour vouloir abuser d'une pauvre jeune fille qui se fie à moi comme à un galant homme, ce que je veux m'efforcer d'être pour l'amour d'elle. J'aurais mauvaise opinion de vous si vous me jugiez capable d'une pareille infamie. Vous me dites aussi que Miss Rebecca Caulfield possède plus que jamais l'estime de mon père. Mais, Ruth, cette estime ne peut pas être la règle de mes actions, car je considérerais comme la pire des tyrannies celle qu'un père prétendrait exercer sur les sentiments de ses enfants. Dans ma pensée, ce serait même comme une sorte de barbarie qui porterait la jeunesse à se révolter contre les privilèges de l'âge. Je ne doute nullement que Miss Rebecca ne soit une personne très recommandable, bien qu'elle se soit laissée endoctriner par cette nouvelle secte de méthodistes, ou, comme quelques-uns le disent, de charlatans, fondé récemment par un jeune écervelé nommé Wesley et un autre encore plus fou nommé Whitfield. Je suis bien certain qu'il ne manque pas d'hommes à Ullerton qui seraient fort aises d'obtenir la main et la fortune de Miss Rebecca. Mais sa fortune fut-elle 10 fois plus considérable, je ne saurais unir ma vie à celle d'une personne pour laquelle je n'éprouve aucune affection. Maintenant, ma chère sœur, ayant répondu à toutes vos questions, autant qu'il m'est possible de le faire par lettre, il ne me reste qu'à vous demander de me donner souvent de vos nouvelles et de croire que vous n'avez pas de plus affectionné serviteur que votre frère Matthew Haygarth. Je commence à penser que la théorie de Sheldon au sujet d'un mariage antérieur et secret pourrait bien devenir un atout dans son jeu. Dieu seul sait combien pourra être long et difficile le travail nécessaire pour arriver à prouver ce mariage. Et alors même que nous parviendrions à en trouver la preuve, nous n'aurions avancé que d'un pas dans notre obscur sentier. Nous aurions encore à découvrir quelles ont été les suites de cette union et à suivre la trace des descendants inconnus de Matthew pendant un siècle. Que faisait Sisyphe lorsque sans cesse son rocher retombait sur lui ? A-t-il jamais regardé le sommet de la montagne pour calculer la distance qu'il avait encore à parcourir avant que sa tâche fût accomplie? La lettre dans laquelle se trouve ensuite un passage qui mérite d'être transcrit est beaucoup plus récente et abonde en initiales. Le timbre de la poste est illisible. Je puis seulement reconnaître les lettres S, P, O et L. Le contenu indique qu'elle a dû être écrite de quelque triste village. Ce village ne serait-il pas Spotswold ? C'est encore une question que j'abandonne à la sagacité de Sheldon. La lettre est datée de mars 1749. M ne va pas bien. Quelquefois, j'ai le chagrin de croire que cette vie tranquille ne lui convient pas, habituée qu'elle a été à l'activité et au bruit. Je lui ai fait quelques reproches, mais elle m'a dit avec des larmes dans les yeux qu'être auprès de moi, de M et de C, était assez pour qu'elle fût heureuse, et que sa maladie est la seule cause de sa tristesse. Je prie le ciel qu'elle se rétablisse bientôt. Le petit M embellie tous les jours, et vraiment, ma chère sœur, si vous trouviez moyen de revenir voir votre affectionné frère, vous reconnaîtriez vous-même qu'on ne peut avoir un plus bel enfant. Il est intelligent et a de si gentilles façons qu'elle lui gagne tous les cœurs. Mrs. J. dit qu'elle l'adore et qu'elle a presque peur de tourner au paganisme en ressentant une si grande affection pour une créature terrestre. Elle a dit cela à notre bon curé, qui a ri avec elle de cette folie. Nous avons eu des pluies continuelles la semaine passée. Un temps pareil ne peut que retarder le rétablissement de M. Le médecin de G, chez lequel je l'ai conduite, dit qu'il faut qu'elle prenne l'air tous les jours, soit à pied, soit en voiture, ou en chaise à porteur. Mais avec ce temps, et dans un endroit où on ne trouve ni voiture ni chaise, elle est bien forcée de rester à la maison. Je lui ai proposé d'aller demeurer à G, mais elle n'a pas voulu, disant que cet été, elle serait aussi bien portante que jamais. Je prie Dieu qu'il en soit ainsi, mais il y a des moments où je n'ose plus espérer. Si vous pouvez revenir nous voir, vous apprécierez si elle paraît plus mal que lorsque vous l'avez vue l'automne dernier. Elle a essayé de votre tisane d'infusion de tanaisie et je vous envoie tous ses remerciements pour votre bon souvenir. Je présume que les méchants propos sur mon compte ne manquent pas à Ullerton. L'on m'y représente sans doute comme courant à Londres les combats de coqs et les théâtres, les fêtes du Vauxhall et les bals de Covent Garden. Mon père continue-t-il à dire pique-pendre de moi ou n'a-t-il pas oublié que j'existe? Dans ce dernier cas, j'espère que vous le lui rappellerez. Votre affectueux frère et obéissant serviteur, Matthew Haygarth. Cette lettre me paraît démontrer l'existence d'un mariage. Qui peut être ce petit M dont il parle si tendrement si ce n'est son enfant? Et qui peut être cette femme dont la santé lui cause tant d'inquiétude, si ce n'est la sienne? Ce n'est que de sa femme seule qu'il puisse parler ainsi librement à sa sœur. Le lieu où il lui demande de venir les voir ne peut être qu'un domicile conjugal. Matthew était donc marié secrètement et vivait à Spotswold, où sa femme et son fils ont été enterrés plus tard, et d'où le corps de l'enfant a été ultérieurement transporté à Dewsdale. Cette allusion au commérage de Ullerton indique clairement que le père de Matthew croyait qu'il dépensait dans la métropole la subvention paternelle, à un moment où le jeune homme vivait modestement à une distance de 50 miles à peine de sa ville natale. Ce ne serait plus possible à notre époque de chemin de fer, mais dans ce bienheureux siècle, la distance de Ullerton à Spotswold était un voyage qui n'exigeait pas moins d'une journée. Que Matthew vécut dans un autre lieu que celui où il était censé demeurer, cela apparaît en outre dans plusieurs passages de ses lettres, tels que les suivants. J'ai été hier, jour du marché, à G, où je me suis trouvé à l'improviste face à face avec le fils aîné de Peter Brown. Ce garçon a ouvert de grands yeux comme une oie en me regardant. Je lui ai rendu son regard avec intérêt, en lui disant que s'il était envieux de savoir mon nom, je m'appelais Simon Lupkish, fermier, pour le servir. Le pauvre nigaud m'a demandé humblement pardon en me disant qu'il me prenait pour un gentleman de Ullerton, un ami de son père. Sur quoi je lui ai donné un shilling et nous nous sommes quittés parfaitement satisfaits l'un de l'autre. Parmi les lettres qui suivent, il y en a de fort tristes. Le petit M est mort. Le cœur désolé du pauvre père exprime sa souffrance en termes fort nets. Novembre 1751. Je remercie sincèrement ma chère sœur de sa bonne affection et de sa sympathie, mais hélas, il n'est plus, et il me semble que sans lui, je ne peux plus avoir aucun plaisir, aucune joie en ce monde. Un pauvre petit enfant de 4 ans, et pourtant si cher à mon cœur, que la terre me paraît vide et solitaire sans lui. M dépérit sensiblement, elle garde le lit chaque jour davantage. En vérité, ma chère Ruth, je ne vois que des chagrins, de la misère devant moi, et je serai heureux de reposer en paix dans la même tombe que mon petit M. Je ne puis rien trouver de plus sur cette mort, seulement ça et là de tristes allusions. Je présume que la plus grande partie des lettres de Matthew a dû être perdue, car les dates de celles que j'ai dans les mains sont très espacées, et je trouve dans la plupart l'indication évidente d'autres correspondances. Après la lettre sur la mort du petit M, il y a une lacune de 8 années. Puis vient une lettre portant le timbre de Londres, très bien conservée. 4 octobre 1759. La ville est bien triste. Tout le monde, grands et petits, riches et pauvres, est en deuil du général Wolfe. Quelle noble mort! Et combien elle est préférable à la vie quand on considère ses peines et ses misères. Cette opinion a été aussi celle de bien des gens qui valent mieux que votre serviteur. Jeudi dernier, je me trouvais avec un écrivain distingué, le docteur Johnson, celui qui a écrit l'admirable histoire de Rasselas, que je vous ai envoyé dès son apparition. Ce Johnson, je dois l'avouer, est infiniment moins distingué comme gentleman que comme auteur. Il porte du linge sale, met mal sa cravate et a des façons qui, chez un autre, seraient considérées comme celles d'un homme mal élevé. Il a fait une réflexion qui m'a vivement impressionné. L'une des personnes présentes, presque tous gens de savoir et de talent, excepté votre pauvre ignorant de frère, remarquez que c'était un dire, chez les anciens, que le plus heureux homme du monde était celui qui n'était jamais né, et le plus heureux après celui-là, celui qui mourait le premier. Sur quoi le docteur Johnson s'est écrié très haut et avec colère « Ceci est un sentiment païen, monsieur, et je suis honteux de voir un gentleman chrétien le répéter avec admiration. Entre les païens et ceux qui suivent la doctrine du Christ, il y a autant de différence qu'entre un esclave et un loyal serviteur qui sert un bon maître. Chacun d'eux porte un fardeau semblable, mais le serviteur sait qu'il recevra sa juste récompense, tandis que l'esclave n'espère rien et en conclut que le plus grand bonheur pour lui, c'est de ne pas travailler. » Je ne pus m'empêcher d'approuver la sagesse et la piété de ce discours, mais, à la vue de tout un peuple en deuil, j'enviais le sort du jeune général, sa mort glorieuse. J'aurais voulu être parmi les victimes sur les hauteurs de Québec. J'ai été voir la vieille maison dans la rue J, mais je n'ai pas voulu y entrer pour voir Mrs. F. et nos anciennes chambres, car j'aurais cru une apparition de ceux qui les ont habitées autrefois. C. travaille à Highgate, où elle est en très bon air. Je vais la voir souvent. Elle est presque aussi grande que vous. Présentez mes compliments à Miss Rebecca, puisque vous dites que cela fera plaisir à mon père, et qu'il est maintenant disposé à avoir une meilleure opinion de moi. Mais, s'il pense que je la demanderai en mariage, il s'abuse tout à fait. Vous savez où repose mon cœur, dans une tombe, avec tout ce qui a contribué à me rendre la vie chère. Remerciez mon père de l'argent qu'il m'a envoyé. Dites-lui que je passe mon temps en bonne compagnie, sans plus jamais ni boire ni jouer, et que j'irai lui présenter mes respects dès qu'il me l'ordonnera. Mais je ne désire pas quitter Londres, étant bien aise d'être près de C. Qui est cette C? N'est-ce pas très probablement la même C mentionnée dans les lettres précédentes, conjointement avec le petit M? Peut-on douter qu'elle soit la fille de Matthew? De qui pourrait-il parler ainsi, si ce n'est de sa fille? Fort de cette conviction, j'ai extrait tous les passages où il est question de C, quel que soit l'espace de temps qui les sépare. Ainsi, en 1763, je trouve « C est devenue fort belle, et Mrs. N m'a dit qu'elle était très admirée par un frère de son amie Tabitha. Elle ne sort jamais qu'avec Tabitha. On n'aurait pas plus d'égard pour une duchesse. Mrs. N l'aime tendrement. Elle la considère comme la jeune fille la plus douce et la mieux élevée que l'on puisse voir. Je lui ai donné la nouvelle édition de Sir Charles Grandison, qu'elle lise tout haut, chacune à leur tour, le soir, pendant que Mrs. N travaille à l'aiguille. C m'a donné un gilet de laine qu'elle a tricoté elle-même, et quelques paires de bas qui sont trop gros pour que je puisse m'en servir. Je ne lui ai pas dit. » En 1764, le frère de Tabitha Meynell va plus souvent que jamais à Highgate. Il est employé dans le magasin de son père. C'est un jeune homme très rangé et très estimable. Si un mariage avec lui doit rendre C heureuse, Je serais le dernier des hommes si j'usais de mon autorité pour contrarier son inclination. Elle n'a encore que 18 ans, ce qui est bien jeune pour changer de position. C'est pourquoi j'ai dit à Mrs. N. qu'il fallait prendre patience. En attendant, les jeunes gens se voient très souvent. En 1765, le jeune Meynell est plein de constance. Il montre beaucoup de penchant pour C. dans ses conversations avec Mrs. N. Mais il attend mon autorisation pour lui exprimer ses sentiments à elle-même. C'est vraiment un garçon exemplaire. Son père jouit d'une excellente réputation dans Aldergate Street, où il demeure. J'ai dîné à sa table depuis que je vous ai écrit, et l'on m'a marqué une grande considération. Lui, Thomas Meynell, le père, donnera à son fils 500 livres. J'ai promis que j'en donnerai 1000 à C, et lui meublerai une maison à Chelsea. Chelsea est un charmant petit village près de Londres, de sorte que, selon toute probabilité, je vous annoncerai un de ces jours un mariage. Je suis fâché d'apprendre que mon père est obligé de garder le lit. Assurez-le de toute mon affection et dites-lui que j'irai à Ullerton dès qu'il le désirera. C'est une satisfaction pour moi de savoir que Miss Rebecca soit aussi remplie d'attention pour lui et qu'il trouve du soulagement dans ses prières et ses exhortations. Je lui ai plus d'obligation de cela que de l'amitié qu'elle témoigne pour mon indigne personne. Dites-lui, je vous prie, que je suis entièrement à son service. Notre nouveau roi est aimé et admiré de tous. Il n'en est pas de même de ses ministres, sur le compte desquels il circule d'injurieux pamphlets dont le peuple s'amuse. Dans cette lettre, je découvre un certain adoucissement de sentiments à l'égard de Miss Rebecca. L'année suivante, en 1766, d'après mes notes, le père de Matthew est mort, mais je ne trouve aucune lettre datée de cette même année, que Matthew a sans doute passée à Ullerton. Aucune depuis cette époque, jusqu'à l'année où Matthew a épousé Miss Rebecca. Pendant l'année qu'a duré cette union, et qui a été la dernière de sa vie, je trouve plusieurs lettres, quelques-unes écrites à Londres, les autres du manoir de Dewsdale. Mais dans ces lettres, si affectueuses et confidentielles qu'elles soient, il y a peu de renseignements concluants. Ces dernières lettres sont l'expression des sentiments de Matthew, régénérés et wesleyanisés. De même que les épîtres les plus prétentieuses de sa femme Rebecca, elles traitent principalement de matière spirituelle. Je crois distinguer la marque d'un esprit affaibli. En déclinant, il est devenu la proie de terreurs religieuses. Et bien que je reconnaisse pleinement l'influence réformatrice que John Wesley a exercée sur le peuple anglais, j'imagine que le pauvre Matthew aurait été plus à son aise entre les mains d'une femme d'une piété moins exigeante et moins impérieuse. Un sentiment de frayeur, presque de désespoir, perce dans tous ses mots. Il se lamente et regrette le bonheur passé de sa jeunesse, puis il se lamente et pousse des soupirs sur sa propre iniquité, qui l'a fait heureux avec tant d'insouciance et de frivolité. Quand je pense à ce temps de folie inconsidérée que j'ai passé avec M, écrit-il, et combien auprès d'elle je croyais jouir du plus grand bonheur que la terre puisse nous accorder ou le ciel nous promettre, je tremble pour ma pauvre âme, dans laquelle la vraie lumière n'avait pas encore pénétré. Si je pouvais seulement en conserver le souvenir, je serais moins affligé. Mais je ne le dois pas, car les plus zélés membres de notre secte proclament que mourir avec la préoccupation d'une affection terrestre, ou trop regretter ceux que nous laissons sur la terre, n'est pas d'un bon chrétien, et qu'un châtiment attend ce qui s'y laisse aller. Ou, dans une autre épître, j'ai entendu jeudi dernier un sermon d'un tout jeune homme qui, de garçon charpentier qu'il était, est devenu prédicateur. Il a dit que jouir d'une existence heureuse et trouver plaisir dans les choses de ce monde, si le repentir ne nous absout pas, nous conduit à une inévitable damnation. C'est une douloureuse pensée. Je me suis mis à songer à M, qui m'a rendu si heureux jusqu'à ce que la mort vint me l'enlever. Et maintenant, je sais que dans cette vie, tout n'est que vanité. Je vous assure, ma chère sœur, que je suis profondément triste quand je réfléchis sur cette vérité. Plus tard vient cet étrange pressentiment de la mort, ce sentiment d'une main cachée qui l'attire de si bonne heure vers la tombe, Puis, avec ce pressentiment, vient le désir que le petit M soit transporté dans un lieu où son père puisse reposer près de lui. Il se trouve plusieurs passages dans les dernières lettres qui font prévoir le mystérieux enterrement nocturne à Dewsdale. « La nuit dernière, écrivait Matthew, j'ai rêvé du cimetière de S. Il me semblait que j'étais assis sous le vieil if et que j'entendais la voix d'un enfant qui implorait ma pitié. Le souvenir de ce rêve m'a oppressé toute la journée et plus d'une fois Rebecca m'a demandé ce qui me tourmentait. Si seulement mon petit M reposait plus près de nous, dans ce tombeau où je sens que je ne tarderai pas à être transporté, je crois que je serai plus heureux. Reprochez-moi cette folie si vous voulez. Je deviens vieux et Satan me poursuit par de folles tentations. Que vous importe à vous que mon âme ou mon corps repose ici ou là? Il n'en demeure pas moins que j'éprouve un désir irrésistible d'être enterré avec mon petit M. » Je trouve de même, dans ces dernières lettres, l'expression du désir de Matthew de révéler son secret, ainsi que la correspondance de Rebecca l'a déjà prouvé. « Nous avons parlé de beaucoup de choses, écrivait-il, et elle a été plus douce et plus affectueuse pour moi qu'à l'ordinaire. J'ai été sur le point de l'entretenir de M et de réclamer son amitié pour C. Mais elle n'a pas paru se soucier de connaître mes secrets, ce qui m'a fait craindre de l'offenser en lui apprenant la vérité. Avant de mourir, je m'expliquerai avec elle, dans l'intérêt de C, de M et du petit. J'irai de bonne heure à Ullerton la semaine prochaine pour faire mon testament, que cette fois je ne changerai pas. J'ai brûlé le dernier, n'en étant pas satisfait. » Ce passage se trouve dans la dernière lettre du paquet qui m'a été confié. La lettre est datée du 5 septembre 1774. Matthew est décédé le 14 du mois suivant et, selon toute probabilité, le testament auquel il est fait allusion n'a jamais été rédigé. Ce qui est certain, c'est que Matthew est mort ab intestat et que son fils John a hérité d'abord d'une partie, puis plus tard, de la totalité de sa fortune. Il est fait plusieurs allusions à son jeune fils dans ses dernières lettres. Mais je ne pense pas que la petite créature ait jamais occupé une grande place dans le cœur du père. Peut-être Matthew ne l'avait-il pas vu assez souvent pour le prendre en affection, surtout alors que son esprit affaibli était absorbé par le souvenir du petit M et de celle qu'il n'avait jamais avouée pour sa femme. Ainsi se termine l'histoire de Matthew, autant qu'il m'a été possible d'en suivre la trace dans les insondables abîmes du passé. Il me semble que je dois maintenant me mettre en quête d'informations au sujet de ce jeune Meynell, dont le père, demeurant dans Aldergate Street, était un des plus respectables citoyens de ce quartier. Il doit avoir été un personnage assez important pour avoir laissé d'une manière ou d'une autre la trace de ses pas sur le sable du temps. Le perspicace Sheldon sera capable de me dire comment il faudra s'y prendre pour commencer cette recherche. Je ne vois pas que je puisse rien faire de plus à Ullerton. J'ai adressé à Sheldon une copie complète de mes extraits de la correspondance de Matthew et j'ai envoyé à Mrs. Judson les lettres soigneusement empaquetées ainsi qu'elle me l'avait recommandé. J'attendrai maintenant des nouvelles de Sheldon ainsi que la guérison de ma grippe avant de faire aucun pas sur le grand échiquier qu'on appelle la vie. Que peut signifier la prolongation du séjour de Paget dans cette ville ? Il y est encore. Il a passé devant cette maison aujourd'hui même, pendant que j'étais à ma fenêtre dans cet état d'esprit piteux et abject que peuvent seuls produire la grippe et la mauvaise humeur à son paroxysme. La présence de cet homme me donne toutes sortes de craintes. Je ne puis me distraire de l'inquiétante pensée que le gant de chevreau que j'ai aperçu dans le parloir de Goodge y a été laissé par le capitaine. Je me dis que cette idée est absurde, je me répète que Paget ne peut avoir eu connaissance de l'affaire qui m'a amené ici, mais si souvent que je puisse le redire, je suis néanmoins très tourmenté. Je suis porté à croire que la limite qui sépare la grippe de l'idiotisme est bien étroite. Ce Paget est un fieffé fripon, et puis il est lié d'intérêt avec Sheldon, une autre espèce de coquin malgré ses apparences de gentleman. 12 octobre. Il se passe certainement quelque chose. Un autre que moi a mis la main sur les lettres de Haygarth. Ce matin, j'ai reçu une note irritée de Miss Judson, me rappelant que j'avais promis de lui renvoyer le paquet de lettres hier, dans l'après-midi, et m'informant qu'elle ne les avait pas encore reçues à 11 h du soir. Or, au même instant, elles lui ont été apportées à la porte de derrière de son jardin par un sale petit garçon qui a sonné comme si le feu était à la maison et qui s'est sauvé après avoir brusquement déposé le paquet entre les mains de la servante. Quant au paquet lui-même, Miss Judson m'informe qu'il avait une apparence malpropre, indigne des mains d'une femme comme il faut, et que de plus une lettre manquait. Sans égard pour ma grippe, je descendis immédiatement jusqu'au sous-sol de l'auberge pour trouver le garçon auquel j'avais remis le paquet la veille à 10 h 30 du matin et lui demander par quel messager il l'avait envoyé. Le garçon ne se le rappelait pas. Je lui dis nettement que je considérais ce manque de mémoire comme tout à fait inexplicable. Le garçon ne fit qu'en rire avec cette insolence dont use tout garçon d'hôtel bien élevé envers un voyageur qui ne paie que 20 shillings par semaine, nourriture et logement compris. Selon lui, le paquet avait été remis à un parfait messager. Si c'était au garçon d'écurie ou à l'un des autres garçons de l'hôtel, ou bien à une fille de cuisine qui faisait quelquefois les commissions, le garçon ne pouvait prendre sur lui d'en jurer, et tant homme a préféré la mort au parjure. Quant à croire que mon paquet avait été ouvert, c'était ridicule. Que pouvait-il y avoir à voler dans une feuille de papier? Y avait-il de l'argent dans le paquet? Je fus obligé de reconnaître qu'il n'y en avait pas, sur quoi le garçon se mit à rire formidablement. Ne pouvant rien apprendre de ce côté, je m'appliquai à interroger sévèrement le garçon d'écurie, le garçon préposé aux bottes, d'autres garçons et la fille de cuisine. Curieusement, aucun d'eux n'avait porté un paquet. Je demeurai donc convaincu qu'il y avait eu une trahison, de même que dans l'affaire Goodge, et je me demandai à qui je pouvais l'imputer. Mes soupçons se portèrent instinctivement sur Paget. Cependant, n'était-il pas plus présumable que c'était les Theodore Judson qui surveillaient et contrariaient mes plans? Avait-il eu quelque connaissance d'un mariage secret de Matthew et soupçonnait-il l'existence d'un héritier dans la descendance de ceux qui étaient issus de ce mariage? Après avoir ainsi réfléchi, je pris le parti de me rendre chez Miss Judson. Je lui affirmai sur ma foi de gentleman que le paquet avait été remis par moi-même au garçon de l'hôtel la veille à 11 h du matin, et je demandai à voir l'enveloppe. C'était bien la mienne, une large enveloppe bleue de bureau avec l'adresse écrite de ma propre main. Mais par ce temps d'enveloppe gommée, rien n'est plus facile que d'ouvrir une lettre. Je me jurai de ne plus jamais confier un document de quelque valeur à la sauvegarde d'un morceau de papier gommé. Je comptai les lettres pour me convaincre par moi-même qu'il en manquait une, puis je tâchai de découvrir laquelle. J'échouai complètement. Pour faciliter mon travail dans la copie des extraits, j'avais numéroté les lettres dont j'avais l'intention de transcrire des passages. Mes numéros au crayon étaient parfaitement visibles au coin de chacune des lettres. Je les retrouvai tous et je pus ainsi m'assurer que je n'avais pris aucun extrait de celles qui manquaient. J'en conçus une nouvelle inquiétude. Quelques renseignements plus importants que tous ceux que j'avais transcrits auraient-ils échappé à mon attention? Je demandai à Miss Judson si elle ne soupçonnait personne qui eût pu ouvrir le paquet. Elle me regarda avec un sourire glacial, plus glacial encore que l'atmosphère de son parloir, et d'une voix narquoise. « Votre surprise a été admirablement bien jouée, monsieur, mais on ne me trompe pas deux fois. Lorsque vous vous êtes présenté, j'ai eu des soupçons. » Mais vous étiez porteur d'une lettre de mon frère, et en bonne chrétienne, j'ai repoussé mes soupçons. Je vois maintenant que j'ai été la dupe d'un imposteur, et qu'en vous confiant ces lettres, je les ai confiées à un émissaire de Theodore Judson. » Je protestais que jamais mes yeux ne s'étaient arrêtés sur aucun des Theodore Judson, mais la défiante parente secoua la tête avec un sourire froid et sec, exaspérant au possible. « On ne me trompe pas deux fois !» Quel autre que lui a pu se servir de vous? Quel autre que Theodore Judson est intéressé à la fortune des Haygarths? Oh, c'est bien digne de lui d'employer un étranger. Il savait que ses efforts personnels seraient infructueux. C'est bien digne de lui de surprendre ma confiance par l'entremise d'un vil salarié. » J'avais été traité de « jeune homme » par le révérend Jonas, Maintenant, j'étais qualifié de « vil salarié » par Miss Judson. Je trouvais cela raide. Je n'aurais pu dire lequel des deux m'était le plus désagréable. Et je commençais à penser que la nourriture et le logement dans le présent et une fantastique apparition de 3000 livres dans l'avenir compensaient pleinement les ignominieuses avanies qu'il me fallait subir. Je revins à mon auberge complètement brisé, à tel point que l'influence la plus abrutissante de la grippe n'aurait pu me faire descendre plus bas. J'écrivis un bref et succinct récit de mes démarches que j'envoyais à Georges. Après quoi, je m'affaissai sur ma chaise, malade, désespéré, non moins humilié qu'Ajax lorsqu'il s'aperçut qu'il avait taillé en pièces un troupeau de moutons en le prenant pour des Grecs. Aussi misérable que Job sur son fumier, mais, je suis heureux de le dire, à l'abri des cris des compagnons de l'un et des amis de l'autre. Sous ce rapport, du moins, j'avais quelque avantage sur tous les deux. 13 octobre. Au courrier de ce matin, une courte lettre de Sheldon. « Revenez immédiatement. J'ai trouvé le registre qui contient la mention du mariage de Matthew Haygarth. » Et sur ce, j'ai planté là Ullerton, avec une explosion d'ivresse que nul langage humain ne saurait rendre.